Alors, gloire à Dieu, Jésus est Seigneur, nous devons faire confiance en cette parole-là. Il est Seigneur, il règne sur tout. Donc, un véritable chrétien ne doit rien craindre, parce que Jésus, son Seigneur, est au contrôle de tout. Et c'est de ce même Jésus que nous voulons parler tout de suite, parce que c'est lui qui est la solution sur tout, pour tout. Et c'est lui qui règne sur tout. Nous allons lire Matthieu 27, voilà, à partir du verset 15 jusqu'au verset 25. La question d'aujourd'hui, c'est quel est le mal que Jésus a fait? On pourrait même poser autrement la question, quel est le mal que Jésus t'a fait à toi? Voilà, quel mal a-t-il fait? Quel mal t'a-t-il fait? Voilà, c'est ça la question, et nous allons écouter quelqu'un qui a posé cette question-là aux gens qui venaient accuser Jésus, qui souhaitaient sa condamnation, sa mise à l'écart. Eh bien, cette personne, c'est le juge principal qui devait juger Jésus. Et il a posé la question aux gens, pourquoi vous voulez le condamner? Pourquoi vous voulez qu'il soit puni? Quel mal a-t-il fait? Nous, aujourd'hui, nous voulons poser la même question à tous les humains qui sont ici, qui sont ailleurs, qui nous écoutent. C'est quoi le mal que Jésus t'a fait à toi? Pourquoi tu l'écartes de ta vie? Parce que quand quelqu'un écarte Jésus de sa vie, il est comparable à ceux qui ont voulu sa condamnation, sa crucifixion. C'est la même chose. La question, c'est qu'est-ce que tu attends pour laisser Jésus prendre le contrôle de ta vie? Pourquoi tu l'écartes? Quel mal Jésus t'a fait à toi? C'est ça la question. Nous allons lire Matthieu 27.
À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas !» Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains, en présence de la foule, et dit « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. »
Voilà une mauvaise conclusion pour ces gens-là. Et Pilate de poser la question « Mais quel mal a-t-il fait? Quel est le problème ?» Vous voulez que je le condamne? Mais qu'est-ce qu'il a fait comme mal? Et aujourd'hui, c'est comme si Pilate disait aux gens de notre époque, disait à nous qui sommes réunis ici, entre Jésus, le Fils de Dieu, et de l'autre côté, le monde, les plaisirs, l'argent, l'orgueil, la prétention. Vous voulez de qui? Et les gens disent, ah oui, mais moi j'aime bien les habits. Moi, j'aime bien le soleil. Moi, j'aime bien ceci. Façon de dire, ah, je choisis ça. Mais Dieu dit, mais alors, quel mal il y a à choisir Jésus? C'est ça la question. Jésus te fera quel mal pour que tu préfères les joies de ce monde, les bêtises de ce monde, l'esclavage de la chair? Jésus, lui, il t'a fait quoi? Parce que ces choses-là que tu choisis te feront du mal, un jour ou l'autre. Quand ils choisissent Barabbas, Barabbas était quoi? C'était ce qu'on peut appeler un terroriste aujourd'hui. C'est-à-dire des gens qui se battaient pour l'indépendance d'Israël, mais par le terrorisme, en faisant des attentats de l'époque. Mais vous savez, quand les gens se battent dans la logique du terrorisme, ils ne vont pas que terroriser l'envahisseur. Ils vont aussi terroriser leur propre population. Ils vont, racketter la population pour dire, nous sommes en train de nous battre pour vous, alors donnez-nous ceci, donnez-nous cela. Donc ils sont menaçants de deux côtés. Aujourd'hui, qui souffre le plus du terrorisme islamique? Ce sont les musulmans. C'est les musulmans qui souffrent le plus du terrorisme islamique. Ce ne sont pas les autres. Donc, parce que les musulmans... On peut baisser un peu mon micro? Parce que les autres musulmans qui ne suivent pas bêtement les terroristes sont considérés par les terroristes comme des faux aussi, des mauvais. Donc, ils subissent aussi la pression. Donc, ce Barabbas-là faisait subir la pression, oui, aux Romains, mais aussi aux enfants d'Israël. La drogue, le vol, le mensonge, l'impudicité, l'argent font souffrir, l'orgueil surtout. Ça fait souffrir. Tout ça, ça fait souffrir les humains. Maintenant, Dieu dit, entre Jésus et tout ça, vous choisissez quoi? Les gens disent, ah oui, mais... Comme certains m'ont répondu, bon, je ne veux pas encore me faire baptiser parce que je suis encore attaché au monde. Ah! Pilate dit, mais... C'est vrai que vous choisissez le monde, mais vous reprochez quoi à Jésus pour choisir le monde? On te présente deux articles, tu choisis l'un. Mais on te pose la question, puisque la personne qui pose la question est... Vous savez, quand il propose Barabbas ou Jésus, Pilate est convaincu que les gens vont dire Jésus, parce que Pilate sait bien tout ce que Barabbas a fait. Un terrorisme visible sur son propre peuple et sur les Romains. Donc il sait que c'est connu que Barabbas, c'est un homme dangereux. Il sait ça. Il se dit, bon, quand je vais les mettre en comparaison, ils choisiront Jésus. Parce que c'est, la comparaison est évidente. Et il s'attendait à ce que les gens disent, bon, ça c'est là, entre Jésus et Barabbas, bon, libérer Jésus. Pilate voulait utiliser cette stratégie-là pour pouvoir libérer Jésus. Il s'est dit, comme je ne peux pas leur dire que je libère Jésus puisque je ne trouve rien à lui reprocher, ça va créer des problèmes, je vais essayer de le mettre en comparaison avec Barabbas. Comme ça, c'est évident que Jésus est le meilleur. Il n'a jamais fait de mal, il n'a jamais menti, il n'a tué personne, il n'a pas fait de terrorisme. Même quand on l'y poussait, hein, on poussait Jésus à entrer dans cette guerre-là contre les colons, Jésus a évité en disant « Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu ». Il s'est dit « Bon, c'est un type dont j'ai appris qu'il a guéri beaucoup de gens, il a fait du bien. Donc si je le mets en comparaison avec Barabbas, les gens choisiront Jésus. C'est clair, c'est comme ça que je peux m'en sortir de ce problème-là. » Parce que c'était un problème pour lui, parce qu'il savait que d'un côté, si il condamnait Jésus, il était lui-même en faute, parce qu'il était conscient que Jésus n'a rien fait de mal. Et s'il ne le condamnait pas, il se créait des problèmes avec tous ces chefs juifs, tous ces juifs qui veulent qu'il le crucifie. Donc, il était en difficulté. Et ces gens-là qui venaient lui dire il faut le crucifier, le menaçaient en disant si tu ne le crucifies pas, c'est comme si tu acceptais qu'il y ait le désordre ici. Cet homme crée le désordre. Donc nous allons t'accuser auprès de César. Et dans cette difficulté, il s'est dit ah bon, si je présente l'histoire Jésus ou Barabbas, ben là je m'en sors, parce que là c'est clair, ils vont dire Jésus. Et c'est ça que Dieu... Pilate représente Dieu là. Dieu dit, entre Jésus et le reste, vous choisissez quoi? Entre Jésus et les ancêtres, entre Jésus et le succès, entre Jésus et ta place dans l'église, une place d'honneur, tu choisis quoi? Les gens disent clairement, ah non, mais moi, je choisis l'argent. Mais ils disent clairement, mais eux, ils ne pensent pas le dire clairement. Eux, ils pensent parler indirectement en disant, bon, attendons encore un peu. Et Dieu relance en disant, mais alors, qu'est-ce que tu reproches à Jésus pour que tu choisisses l'autre chose? Les gens n'ont pas pu répondre. Vous vous rendez compte? Ils n'ont pas su dire qu'est-ce qu'ils reprochaient à Jésus. Ils ont dit tout simplement, crucifie-le. Oui, mais quel mal a-t-il fait? Ils n'ont pas répondu à ça, parce qu'il n'y en avait pas. Et ils ont dit que crucifie-le. Donc maintenant, moi, je pose la question. Dieu nous pose la question aujourd'hui. Quel mal Jésus t'a fait? T'a-t-il fait? Quel mal? Qu'est-ce que tu reproches à Jésus? Bien-aimé, allez dans le monde entier. Dans le monde entier, posez la question à chaque humain. Dites-lui, tu reproches quoi à Jésus? C'est la question simple, la question que Pilate a posée. Tu reproches quoi à Jésus? C'est tout. N'entrez pas dans des débats sans fin sur le christianisme, sur le protestant, ceci, cela. Sur... Posez la question à la personne qui conteste Jésus. Posez-lui la question. Tu lui reproches quoi? Tu lui reproches d'avoir donné sa vie pour toi. C'est ça. Est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un de nous aimer? Ah non, on est bloqué. Tu lui reproches quoi? D'avoir volé quelque part? Ah ben non, il n'y a pas d'endroit où il a volé. Tu lui reproches quoi? D'avoir guéri les gens? Tu lui reproches quoi? D'avoir ressuscité les morts? Ah ben, est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un de telles choses? Tu lui reproches quoi? D'être venu du ciel pour te sauver? Tu lui reproches quoi? Comment, alors que le choix est si clair, tu choisis quand même l'autre côté? Tu lui reproches quoi? De te proposer son aide? C'est ça le mal qu'il a fait quand il vient dire que je sais que tu es faible. Je sais que tu as le péché qui agit en roi dans ta vie. Je le sais. Moi, je ne suis pas venu te condamner pour ça. Je suis venu te proposer mon aide pour que tu t'en sortes. C'est comme si un médecin vient te voir pour dire « Je suis venu te proposer mon aide pour que tu sortes de la cigarette, que tu sortes de la drogue, que tu sortes de l'héroïne. » Et toi, tu dis, mais non, 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 c'est trop fort à moi. Je préfère continuer ainsi. Mais le médecin te dira, mais comment tu acceptes de toi-même un esclavage? Parce que tu as l'impression que c'est trop grand. Pourquoi pas essayer Jésus? Pourquoi pas? Quel mal t'a-t-il fait? Il n'y a aucun mal. C'est ça le problème. Oui, certains vont dire, je suis né orphelin. Mes parents sont morts. J'ai été maltraité par ma tante, par mon oncle. Mais quel mal Jésus t'a fait dans tout ce que tu viens de dire? Quel est le mal que lui l'a fait dans ça? Il n'y en a pas. Il y a des gens qui disent, mais c'est les colons les colonisateurs qui nous ont amené Jésus. Ils nous ont colonisés, ils nous ont fait souffrir. La question est toujours la même. Quel mal Jésus t'a fait à toi? Dans toute cette affaire-là, il n'y en a pas. C'est comme si aujourd'hui, on disait, nous ne voulons plus d'enfants. Parce qu'il y en a qui sont devenus des terroristes, des brigands. Donc plus question d'enfants dans le monde, est-ce que c'est logique? Parce qu'on te dira, mais non, mais en quoi le fait d'avoir un enfant, c'est mauvais? Ah oui, mais il y a des enfants brigands, mais non, mais ça, ce n'est pas... Et toi, tu es brigand, oh non, mais tu as été enfant aussi. Donc, tu remets en question ton existence en refusant qu'il y ait des enfants dans le monde. Donc, quel mal Jésus a fait? S'il y a eu des gens qui ont utilisé son nom pour faire le mal, ça veut dire que Jésus est mauvais? Non! Il t'a rien fait de mal. Est-ce que dans son discours, y a-t-il quelque chose contre les Noirs? Dans le discours de Jésus. Y a-t-il quelque chose contre les Noirs? Il est écrit dans Jean 3, 16, c'est lui qui parle. Ce n'est même pas des propos rapportés, c'est lui-même qui parle directement. Il dit, Dieu a tant aimé le monde, le monde. Il n'a pas dit qu'il a aimé les Juifs. Il a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque, donc ça continue, quiconque, n'importe qui croit en lui. Donc dans le monde entier, croit en lui. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel mal a-t-il fait? Il dit dans Jean 12, l'heure est arrivée où je vais être élevé dans la gloire et les gens du monde entier viendront à moi. Donc en quoi Jésus est contre les Noirs, contre les Chinois, contre les Indiens? En quoi? Donc montre-nous dans les Écritures en quel moment Jésus est contre vous, contre ton peuple, contre ta tribu. À quel moment? À quel moment Jésus, dont le papa dit, je suis le père des orphelins et le défenseur des veuves. À quel moment il t'a fait du mal? Parce que lui, il dit qu'il vient aider les orphelins et les veuves. À quel moment, Luc 4, 18, 19, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance. Il m'a oint pour renvoyer libres les opprimés. Bon, quel est le mal que te fait cette phrase-là, toi qui as été violé, toi qui as été maltraité par tes parents? Quel mal ça te fait, cette phrase-là? Quelqu'un dit, il vient justement pour te libérer de l'oppression de ton souvenir, de tes souvenirs. Il est venu réparer ça. Quel mal il a fait? Il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé, c'est ce qui est écrit. Il est venu pour toi. Quel mal t'a-t-il fait? Mais les gens préfèrent Barabbas. Ils préfèrent le monde. Le monde qui va leur faire du mal par des trahisons, par des pièges. Le monde qui est dirigé par le diable, directement ou indirectement, beaucoup d'humains sont dirigés par le diable. Et le diable ne pense qu'à détruire. Mais Jésus dit, moi je suis venu leur donner la vie en abondance. Le voleur ne pense qu'à détruire. Mais pour détruire, c'est comme les pêcheurs de poissons. Pour les avoir, afin de les manger, il commence par leur donner quelque chose. C'est ce qu'on appelle un appât. Donc le pêcheur de poissons commence par donner quelque chose au poisson, d'agréable au poisson. Le poisson va sentir l'odeur ou va voir l'image. Il va venir manger, croyant que l'hameçon, c'est quelque chose de gentil qui lui amène ce qu'il aime. Or, c'est le piège. Le diable pour te piéger, il a besoin de te donner quelque chose d'agréable à ta chair, de donner ce qui te rend joyeux, ce qui te donne le plaisir. Donc, c'est son piège. Maintenant, Jésus dit, je suis venu te montrer le piège qui est derrière cette affaire-là, d'argent, d'impudicité, de puissance humaine, de l'orgueil humain. Je suis venu te montrer derrière, il y a la force. Si tu prends ça, il y a un pécheur qui est derrière l'affaire. Moi, je suis venu pour toi, afin que tu reçoives la vraie vie qui dépasse ce que propose le pécheur, qui dépasse ce que propose celui qui t'a piégé. Celui qui t'a piégé, il a amené, disons pour un animal comme un tigre, eh bien, celui qui le piège, il amène peut-être la moitié d'une vache pour que le tigre tombe dans le piège. Mais Jésus est venu donner de la viande intarissable qui ne finit jamais. Mais les gens ont dit Barabbas. C'est ce que les gens répondent aujourd'hui. Surtout beaucoup de jeunes. Ils disent Barabbas. Quoi? Est-ce que tu sais c'est quoi l'enfer? Si le poisson savait ce qu'il attendait, récupérer, on enlève les écailles. Déjà, vous voyez le poisson. Il ne meurt pas de la blessure de l'hameçon. Hein. Il ne meurt pas de ça. Il meurt d'une forme d'asphyxie lorsqu'on le sort de l'eau. Lui, il a des organes pour respirer dans l'eau. Il meurt en quelque sorte d'une forme de torture à l'extérieur. Mais lui, il ne savait pas ça. Et Jésus est venu nous prévenir de ça. Il y a un piège dans l'affaire. Fais attention. Il y a un piège. Moi, je suis honnête. Jésus dit, je suis honnête. Moi, je te dis la vérité. Parce que si Jésus était malhonnête, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait aussi proposer les mêmes choses. En se disant même, c'est pour la bonne cause. Je vais leur mentir pour qu'ils viennent à moi pour aller au ciel. Mais non, c'est contradictoire. Tu ne peux pas user de ce que tu combats pour ta cause. Il y a un problème. Donc Jésus reste dans la vérité. Il ne va pas te mentir pour te dire, moi je te donnerai la guérison, l'argent, tout ce que tu veux. Mais après je t'amènerai au ciel. Non, il te dit, choisis entre Barabbas et moi. Choisis. Mais moi, je suis la source de la vie. Je suis la sainteté, la paix, la joie. Je suis le salut. Mais Barabbas, c'est la facilité du monde. Et les gens disent, j'attends encore. Quoi? Est-ce que si on te proposait 2 millions d'euros, tu vas dire, j'attends encore? Je réfléchis un instant. Qui va dire ça? Maintenant, Jésus, c'est plus que 2 millions d'euros. Jésus, c'est plus que tout ça. C'est Dieu lui-même, c'est la vie éternelle. Quel mal t'a-t-il fait? C'est ça la question, mon ami. Quel mal Jésus t'a fait pour que tu choisisses Barabbas? Certains ont dit, oui, mais il y a trop de faux pasteurs qui parlent de Jésus, trop de faux chrétiens qui se comportent mal. La question n'est pas quel mal les prétendus chrétiens t'ont fait, ni les pasteurs. La question, c'est quel mal Jésus lui-même t'a fait. Bien-aimé, aujourd'hui, quelqu'un va prendre la décision, on ne cultive plus le raisin, parce qu'il y en a qui transforment ça en alcool et ça rend les gens, ça détruit les gens. Les gens vont dire, mais les raisins, comme fruit, ça t'a fait quel mal à toi? Ça fait quel mal? C'est les gens qui vont fermenter ça. Mais les raisins comme fruit t'ont fait quel mal? Le maïs comme fruit, ça t'a fait quel mal? Parce que le maïs aussi, on utilise ça pour faire l'alcool. Le riz, on utilise ça pour faire l'alcool. On utilise tout ça pour faire de l'alcool. Maintenant, Quel mal le riz t'a fait? N'est-ce pas qu'il sert à nourrir tant de personnes et les maintenir en bonne santé? Ah oui, mais ça, il y en a qui transforment ça en alcool, donc on annule tout. Non. Ce n'est pas parce que des gens malhonnêtes, utilisés par Satan, prennent le nom de Jésus pour justement détruire sa cause, pour empêcher que les gens soient sauvés. Ils utilisent ce nom pour faire du mal. Comme ça, les gens vont dire, mais c'est ce nom qui porte le mal. Ce n'est pas à cause de ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un a pris du riz, il en a fait de l'alcool, que le riz est devenu mauvais. Le riz reste bon. Et ce qui est grave, c'est quoi? C'est que Jésus t'a prévenu, nous a prévenu, qu'il y a des gens qui viendront parler en son nom, mais ils ne sont pas de lui. Il l'a dit. Donc finalement, quel mal il a fait? Il a prévenu qu'il y aura ça. Il y en a qui vont se baser sur leur papa qui se comporte mal, sur leur maman qui se comporte mal et qui se dit chrétienne, sur leur frère ou sœur qui se comporte mal mais qui se dit chrétien. Ils vont utiliser ça pour rejeter Jésus. Mais Jésus lui-même, il t'a fait quoi? Parce qu'on a un mauvais professeur? C'est une raison pour rejeter les études. Quel mal la géographie t'a fait? Quel mal le français ou les maths t'ont fait? Ils t'ont fait quel mal? Le français ou les maths? C'est le professeur qui utilise ça mal. C'est pas ni le français ni les maths qui ont un problème. Toutes ces raisons ne tiennent pas la route. Elles ne répondent toujours pas à la question. Quel mal Jésus a fait? Quel mal il t'a fait? Il est venu te prévenir des dangers de l'esclavage du péché. Est-ce mauvais? Donc quand maintenant nous voyons une affiche sur la route concernant l'abus de l'alcool ou le danger de la cigarette, est-ce que c'est méchant ce que font ces gens-là? Est-ce que c'est méchant? C'est des gens qui utilisent leur argent pour faire une affiche pour te prévenir sur le danger de quelque chose afin que tu aies une bonne santé. Quel mal ont-ils fait? Quel est le mal que Jésus fait de te prévenir que l'esclavage du péché, c'est mortel, ça te détruira, surtout que tu en as les preuves? Prends l'histoire de Michael Jackson, prends l'histoire de Whitney Houston, prends l'histoire d'Elvis Presley, regarde tout ce que le péché a fait de ces personnes-là. Où est le mal que quelqu'un t'en prévienne? Il a fait quel mal, Jésus? Il a fait quel mal? La plus grosse erreur d'une personne, vous savez, il y a une erreur qu'il ne faut jamais commettre. La plus grosse erreur qu'un humain puisse commettre, c'est de refuser Jésus-Christ. C'est la plus grosse erreur qu'un humain peut faire. Il peut ne pas faire les études, il ne peut ne pas briller dans le sport, il peut rater ceci ou cela, mais il y a quelque chose qu'il ne faut jamais faire, c'est refuser Jésus. Refuser Jésus, c'est décider désormais que la condamnation qui repose sur le diable repose sur toi. La condamnation qui est écrite dans Matthieu 25, 41, quand il a dit « Allez dans l'enfer qui a été préparé pour le diable et ses démons. » Mais quand on dit « Allez », on dit aux humains, on leur dit « Mais ce n'était pas préparé pour vous, mais vous l'avez choisi, vous avez choisi Barabbas. » La plus grosse erreur que commet un humain, c'est refuser Jésus-Christ. Est-ce que tu as déjà vu sur cette terre quelqu'un à qui on ne peut rien reprocher? Parce que la question est posée. Dis-moi dans ton cœur, je ne te demande pas de parler à haute voix, dans ton cœur, réponds à toi-même. Quel mal a-t-il fait? Si jusqu'au bout, tu n'as trouvé aucun mal, alors, n'est-ce pas spécial de trouver quelqu'un sans mal? N'est-ce pas le mal qui détruit l'humanité, le monde? Quand on trouve maintenant une source sans mal, qu'est-ce qu'on fait? On s'y accroche. On s'y accroche. Puisque c'est le mal qui détruit, qui crée les divisions entre frères et sœurs dans une famille. C'est le mal. Un jour, un ami m'a dit, puisque il m'a raconté comment... moi, je l'ai connu. Comment il était très lié à sa sœur. Et aujourd'hui, ils sont... opposé comme les deux pôles d'un aimant, il me dit, ça me dépasse. Quelqu'un avec qui nous avons joué à la dinette, dans la boue où on a joué, aujourd'hui on ne se parle pas. Vous voyez les dégâts du mal. Les dégâts du mal, c'est ce qui arrive dans le monde islamique. Ta sœur avec qui tu as joué à la dinette, avec qui... que tu as protégée à l'école, et le jour où elle vient t'annoncer qu'elle croit en Jésus, eh bien, tu prends un couteau, tu la tues, tu participes à un complot avec le reste de la famille pour l'empoisonner. Ta sœur chérie, vous voyez les dégâts du mal? C'est ça les dégâts du mal. Et Jésus est venu te dire, ne participe pas à ça, viens à moi. Les dégâts du mal, c'est tout ce que nous lisons sur Google. Des filles qui vont en boîte de nuit, après qu'on leur met, on leur met une drogue, elles se retrouvent violentées physiquement. C'est ça la destruction du mal. La destruction du mal, c'est tout ce qu'on voit comme un tatouage de dragons, d'esprits bizarres sur le corps des jeunes qui sont beaux. Ils ont une peau magnifique et le diable les convainc qu'il faut mettre un tatouage horrible. Vous comprenez les dégâts du mal? C'est-à-dire qu'ils remplacent quelque chose de beau, de magnifique par un tatouage horrible. Et ils trouvent ça bien. C'est ça le mal. Le mal fait que quelqu'un n'arrive plus à discerner ce qui est beau de ce qui est laid. C'est ça le mal. C'est ça que tu veux. Où crois-tu que tu vas maîtriser le mal? Tu vas t'arrêter à un certain niveau de vol, tu vas t'arrêter à un certain niveau d'impudicité, tu vas t'arrêter à un certain niveau de mensonge. C'est faux, tu ne peux pas maîtriser ce qui est plus fort que toi. N'as-tu pas vu beaucoup de vidéos où un tigre ou un lion a tué son dresseur auquel il a obéi? Apparemment, pendant 3 ans, 4 ans, mais vient un jour où son côté sauvage qui le pousse à tuer tout ce qui est de l'autre côté, et ça va venir et ce côté-là est plus fort que le dressage. Parce que c'est un animal sauvage, comme on dit. Les animaux sauvages resteront sauvages. Et le jour viendra un jour, puisqu'il est plus fort que toi physiquement, il te détruira. C'est ce qui est arrivé au dresseur de lion, de tigre, de léopard. Et Jésus te dit, en apparence, tu sembles gérer le mal que tu fais, mais tu te trompes. Un jour, le mal se jouera de toi. Quel mal il fait de te prévenir ainsi? Quel mal il fait? Quel mal t'a-t-il fait? C'est ça la question. Mon ami, je parle beaucoup aux jeunes. Quel mal Jésus t'a fait de vouloir que tu sois préservé du mal qui t'attend? Profiter de la vie, ça n'existe pas. Il n'y a que l'inverse. C'est-à-dire, c'est le diable qui profite des humains. Personne ne peut profiter du diable. Personne. ce n'est que lui qui profite. Là où tu crois que ta jeunesse, tu vas profiter de ceci, de cela, tu es en train de te faire manipuler, tu ne te rends pas, tu t'en rends pas compte. Comme beaucoup qui se sont fait manipuler, ils ont fait des opérations chirurgicales pour changer de genre. Et aujourd'hui, ils veulent faire marche arrière, c'est encore une mutilation, c'est grave. Et il y en a beaucoup en Suède qui portent plainte contre les aînés qui ne les ont pas arrêtés quand ils prenaient la mauvaise décision de changer de genre. C'est ce qui se passe en Suède. Des gens qui regrettent. Ils ont été manipulés par des démons et les aînés ont laissé faire. Mais Jésus dit, moi je ne viens pas te manipuler. Je te dis les choses clairement. Tu as le mal en toi. Je suis venu te sauver du mal. Satan te dit, non, c'est pas le mal ce que tu as en toi. Si tu es libre, fais ta vie. C'est ça le piège du diable. Mais Jésus, lui, te dit la vérité. Il ne cherche pas à te séduire pour t'attirer. Il te dit la vérité. Que tu prennes conscience que de toi-même tu changes. Nous allons lire un texte qui parle d'un homme qui a vu la vérité et qui a changé. Luc 19, 1 à 10. Vous savez, j'ai l'habitude de donner toujours ce texte-là. Oui, c'est un texte formidable qui montre la puissance du salut de Jésus. Luc 19, 1 à 10. Jésus est venu pour toi, mon ami. Il est venu pour toi. Je n'ai pas honte de te le dire. Je te le dis même avec joie. C'est beau de savoir que quelqu'un depuis les temps anciens a planifié un jour de te sauver. C'est beau que je sache ça pour moi. Oh, maintenant, quelle joie, bien-aimé. Il est venu pour moi. Il est venu pour toi. Et il est venu pour notre ami Zachée, dont on va lire l'histoire. Luc 19, 1 à 10.
Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir, à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
Amen, amen, amen. Voilà, Zachée qui était esclave du péché, esclave de l'argent, de la malhonnêteté. Il était chef de collecteur des impôts. Il surtaxait les gens et il s'était enrichi comme ça, aimant fort l'argent. Mais lorsqu'il contemple Jésus, lorsqu'il regarde Jésus, il voit la vie. Vous savez, les gens qui ont l'argent n'ont pas forcément le bonheur. Pourquoi le roi d'Espagne est obligé d'aller faire la chasse à l'éléphant ? Est-ce que vous vous rendez compte, le roi qui est en exil, il va au Kenya pour faire tuer un éléphant, sachant que c'est interdit. Hein. Sachez-le que c'est interdit, ça. Ce roi-là, n'avait-il pas tout ? Tout un pays à ses pieds ? C'est quelqu'un qui ne payait pas son ticket d'avion ? Qui devait être dans une loge, dans un avion, mais pas sur un siège, mais dans une loge avec un salon. C'est quelqu'un qui avait des châteaux, des palais. Pourquoi vouloir tuer un éléphant ? Parce qu'il n'avait plus d'envie du reste. La nourriture, ça ne lui disait plus rien. L'argent ne l'a pas satisfait. Il faut encore des plaisirs exotiques. C'est ça la réalité. Rien ne satisfait l'homme sur terre. Parce que Zachée avait plus que nous tous l'argent. La puissance aussi. C'était l'ami des Romains, l'ami des colons. Mais il n'était pas bien. Maintenant, quand il voit Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, il dit, mais c'est ça la vie. C'est ça qui m'a manqué. Zachée a eu Jésus devant lui, comme il avait aussi Barabbas devant lui, c'est-à-dire l'argent, le monde. Mais il a vu que c'était Jésus qu'il fallait choisir. C'était lui qu'il aimait vraiment. Parce que le monde, malgré la richesse de Zachée, le monde le détestait. Tous les Juifs le détestaient. Il n'était pas bien. Il était haï. Donc, quand Jésus entre chez lui, Zachée n'en revient pas qu'un homme aussi pur. Vous savez, tout vient de quoi? Tout vient de quoi? Quand tu as en face de toi le plus saint de tous les hommes, à qui on ne trouve aucun péché, tu as envie de faire quoi? De t'éloigner de lui parce que tu te sens mal. Tu as envie de fuir. Quand tu n'as pas de permis de conduire, tu es en train de conduire, tu vois à un kilomètre de policiers, mais tu sors au premier rond pour avant. Hein? Et là, sachez qu'il y a beaucoup de péchés en lui, voit le saint, le pur, celui dont Pilate dit, mais il n'y a rien de mal en lui. Il a envie de faire quoi? De se cacher. Mais il entend la voix du juste qui lui dit, je veux manger chez toi. Alors Zachée est traumatisé d'amour, traumatisé de joie, dit, c'est pas possible, il fait cas de moi. C'est ça la question. Est-ce qu'un tel comportement de Jésus, c'est mauvais? Aimer le mauvais, aimer l'homme rejeté, aimer l'homme pécheur, en quoi c'est mal? Pourquoi tu refuses Jésus? Zachée était plus pécheur que toi, il était plus lié à l'argent que toi, mais il a vu la vie, il a choisi Jésus. Jésus n'a même pas eu à beaucoup parler, Zachée a vu à qui il avait affaire. Il a choisi Jésus. Maintenant je veux dire aux chrétiens, aux gens qui se disent chrétiens, je leur pose aussi la même question. Qu'est-ce qu'il manque à Jésus? Qu'est-ce que Jésus a de mal en lui? Parce que tu dis de ta bouche qu'il est fils de Dieu. Tu dis de ta bouche qu'il t'aime. Tu dis de ta bouche qu'il est tout puissant. Tu as tous les textes concernant son amour et sa puissance. Mais pourquoi tu t'accroches encore aux éléments du monde? Que manque-t-il à Jésus que tu cherches à trouver ailleurs? C'est ça la question que je te pose. C'est ce qui est arrivé à un monsieur qui a dit qu'il aimait Dieu. Nous allons lire cela dans Luc 18, à partir du verset 18. Il a dit qu'il aimait Dieu. On lui dit, mais dans ce cas, aime-le totalement. Mais il a fait marche arrière. Maintenant, la question, c'est toujours la question de Pilate. Que reproches-tu à Dieu? Toi, je parle aux chrétiens là maintenant. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Que lui manque-t-il? Nous lisons.
Un chef interrogea Jésus et dit, « Mais, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. »
Amen, amen. Vous savez, tout repose sur quoi ? Tout repose sur le fait que il n'a rien fait de mal. En lui, il n'y a point de mal. En lui, il y a la sainteté totale. Quand tu es convaincu de cela, ce n'est pas moi qui le dis, c'est cet homme, c'est le chrétien. Il dit, bon maître, le chrétien, donc, c'est quelqu'un qui est convaincu que Jésus est véridique, est bon, est fils de Dieu. Jésus dit, ben, si tu es convaincu que je suis véridique, je suis Dieu, puisque dit qu'il n'y a que Dieu qui est bon. Donc si tu m'as appelé Dieu bon, c'est que tu me considères au même niveau que Dieu. Mais alors, puisque je suis bon, puisque je suis juste, puisque je suis Dieu, je te dis, ben, vends tous tes biens et suis-moi, tu auras un trésor. Bien-aimé, je recommence encore. Tout repose sur quoi ? Sur le fait que la personne qui est devant toi est irréprochable. Quand tu lui dis, je veux devenir directeur du restaurant de l'Élysée, il te dit, pour cela, vends ta maison. Qu'est-ce que tu comprends par cela ? Puisque tu as affaire à quelqu'un qui est vrai, qui est juste, tu comprends que le trésor dont il te parle est de loin plus grand que ce qu'il te demande de te débarrasser. C'est parce que le monsieur, il est sérieux. S'il me dit, oh, pour être directeur, là, il faut que je monte ma maison. Forcément, dans ce poste-là de directeur, il y a des richesses qui sont immenses. Quelqu'un ne peut pas te dire, tu dis, mais j'aimerais bien, la bague que tu as autour du doigt, il te dit, ben, tu dois me donner 500 000 euros pour ça. Maintenant, c'est qui te parle? Le problème, c'est quoi? C'est que ça repose sur qui parle. C'est quelqu'un dont on dit qu'il n'a fait aucun mal. Donc, il ne peut pas mentir. Il n'a pas des idées d'escroquer ou de gagner quoi que ce soit. Parce que tout repose sur ça. Pilate a dit, quel mal a-t-il fait? En fait, tout ce que lui, il dit, d'être pris au sérieux, puisqu'il n'a fait aucun mal. Vous bien-aimés, je ne sais pas si je me fais comprendre. Et du moment que quelqu'un n'a fait aucun mal, donc tout ce qu'il dit est bon et vrai. Maintenant, imaginons toutes les promesses que ce monsieur a dit dans sa parole. Je vous dis, bien-aimés, la plus grosse erreur qu'un homme puisse commettre, c'est de négliger Jésus-Christ. Il n'a fait aucun mal. Quand tu t'accroches au bien matériel, à ta maison, à ton travail, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a 5 enfants et je vis sans salaire. Ça, c'est la puissance de Jésus. Témoignage vivant. Ce n'est pas des on-dits. C'est moi-même. Parce que Jésus est grand. Quand il te dit, laisse tout et suis-moi, il sait ce qu'il a gardé pour toi. Le chrétien, quand est-ce que nous allons tout lâcher et suivre Jésus-Christ? Quand? Cet homme est comparable à un chrétien. Ce sont les gens qui déclarent Jésus bon. Qui déclarent Jésus vrai. Mais on lui a dit, ben écoute, tu veux la vie éternelle, tu veux le royaume de Dieu? Vends tout. Vends tout. Et suis-moi. Il y a un trésor. Bien-aimé, si même Jésus s'était tué encore. Mais là, il dit, il y a un trésor qui t'attend. Mais cet homme, entre son Barabbas à lui, chrétien, et Jésus, qui était main vide en lui disant, il y a un trésor. C'est ça, c'est pourquoi il est écrit, le juste vivra par la foi. Jésus est main vide, mais il t'a dit que j'ai un trésor. Et l'homme a regardé ses richesses visibles à lui. Il a dit, ah non, ah non, ma maison quand même, voilà. Ah non, ma voiture quand même, mon compte bancaire quand même. Oh bien-aimé, nous perdons notre temps. Jésus est glorieux, il n'a besoin de la maison de personne. Quand il fait ça, c'est parce qu'il veut échanger quelque chose pour te manifester sa gloire. Et c'est juste ça, il n'a besoin, il n'a pas besoin. Il veut toi te libérer. Il veut te faire grandir, t'amener dans des hauts lieux. Dans des lieux célestes plutôt, dans les lieux élevés. C'est tout, c'est tout. Il veut que tu te débarrasses pour saisir ce qui est plus grand. C'est tout. Parce qu'en lui, il n'y a point de mal. Tout ce qu'il propose est bon. Cet homme l'avait appelé bon. Avec Jésus, on n'a pas besoin que les gens nous applaudissent. Il y a des gens qui servent Dieu. Ils veulent être reconnus comme bons pasteurs. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de présenter Jésus. Les gens doivent choisir entre prendre Jésus ou pas. Ils ne doivent pas choisir parce que celui qui parle, il attire 1 milliard de personnes. Ça ne change rien du tout. C'est la même parole. Aujourd'hui, qui prêche? C'est notre ami Pilate. Mais Pilate a fini comment? Il a mal fini. Mais il a dit des vérités claires. Il a dit, il n'a rien fait de mal. Mais lui-même, au lieu de céder à cela, il n'a pas cédé. Quand tu dis de quelqu'un qu'il n'a rien fait de mal, donc tu comprends qui tu as fait. Parce que sur cette terre, il n'y a personne qui n'ait fait, qui n'ait été juste à 100%. Mais lui, il est maintenant. Donc tu comprends qui est-il. Qu'il faut prendre au sérieux tout ce qui le concerne. Et sa femme, vous l'avez lu avec moi. Sa femme qui lui dit, j'ai rêvé pendant toute la nuit, on m'a dit que c'est injuste. Il ne faut pas blaguer avec lui. Donc Pilate avait tous les renseignements. Mon cher, tu as tous les renseignements. Tu as tous les renseignements concernant les miracles de Jésus dans la Bible. Tu as tous les renseignements. Ne prends pas pour excuse ton église, ou bien un pasteur, ou bien des chrétiens. Non, tu as tous les renseignements dans la Bible concernant Jésus. Il ne t'a rien fait, il t'aime. Où est le mal de t'aimer? Où est le mal de mourir à la croix pour toi? Où est le mal, je parle maintenant aux chrétiens, où est le mal de te proposer une gloire supérieure? Au lieu de te laisser t'accrocher à des biens matériels qui sont rien du tout périssables, lui te propose une gloire supérieure. Toi, tu veux toujours t'accrocher aux choses de cette terre, la popularité, la reconnaissance des humains. Non, nous allons nous accrocher à Jésus. On n'a vu en lui aucun mal. Et c'est lui. Hein. J'aime mon ami Pierre qui a dit face à face à Jésus, nous n'irons nulle part, nous restons avec toi. Parce que c'est en toi que se trouvent les paroles de la vie éternelle. Ah, ça c'est l'une des phrases le plus important qu'un être humain ait prononcé. Nous n'irons nulle part, nous restons avec toi Jésus. Parce qu'il n'y a qu'en toi que nous avons vu ce que nous avons vu. Nulle part nous trouvons cela. C'est l'heure du salut. que tu sois encore non-chrétien, que tu sois sympathisant non-baptisé, que tu sois chrétien modéré, fréquence modérée, Jésus t'appelle aujourd'hui à le choisir, à déposer le reste et à le saisir pleinement. Amen.